C'est fait exprès. J'ai mis la chemise de chez moi pour bien flasher, pour que vous puissiez bien voir. Ah, de chez moi? Oui, vous puissiez bien me voir de chez moi, Saint-Martin. Voilà. Dans cette assemblée, il n'y a que deux Saint-Martinois, Josiane et moi. Bon, elle m'a dit, bon, il y a aussi Honoré. J'ai dit, OK, il y a Honoré. Mais sinon, il n'y en a que deux, Josiane et moi, c'est tout. Et j'ai mis cette chemise pour vous dire que moi, je suis immigré. Immigré, je suis du Gabon, hein, moi, je suis gabonais, 100% de pure souche. Voilà. 100% de pure souche. Mais quelquefois, je peux être de Saint-Martin, je peux être de la Corse, je peux être de l'Alsace, de la Suisse, un peu ici et là, parce que, en fait, je me suis rendu compte que on est très attaché là où on vient et là où on va. On a tendance, de manière volontaire ou involontaire, montrer une certaine fierté. Que je suis d'eux, et puis chez moi c'est meilleur qu'eux, etc. Et pour moi, toute la terre, où que l'on soit, il y a des chrétiens, et toute cette terre appartient à mon Père, au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc revenons au fait que moi je suis immigré, je reviens de Saint-Martin, et comme tous les Antillais, on vient ici juste pour travailler, et notre objectif est arriver toujours vers nos îles. Quand le travail est fini, allez, on retourne chez nous. Il n'y a pas que les Gabonais qui sont immigrés, il n'y a pas que d'autres qui sont immigrés ici, mais en général les Antillais aussi. J'avais un collègue, il avait une montre et en fait, sa montre avait double horloge. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi avoir une double horloge sur ta montre? Il me dit, en fait, l'autre, c'est la montre du pays. Donc je me pose la question, mais quel pays? Je lui demande, mais oui, mais quel pays? Eh bien, hey, David, moi, je suis comme toi, hein, je suis immigré, mon pays, c'est la Martinique. Il dit, raconte-moi tes histoires. Quelle Martinique? Je suis français, c'est tout. Non, David, moi, je suis de la Martinique. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, il y a toujours cet objectif-là, cette idée, on est ici juste de passage. Et notre objectif, c'est chez nous, là, on doit retourner là-bas, on doit y aller. Gardons ça bien en tête. Et quand on est immigré, là où on est, il y a des points, c'est-à-dire on ne s'attarde pas trop à ce qui se passe autour, on ne se laisse pas influencer par ce qui se passe. Comme aime bien dire le frère Kamal, le poisson, il vit toute sa vie dans l'eau, mais il n'est jamais salé, quoi. En fait, c'est un peu dans cette idée-là. On vit ici, mais sans se laisser influencer, on vient avec nos vêtements, voilà, pour montrer que moi, je suis de là-bas. C'est bien, je suis de là-bas. Et on ne s'attache pas à ce qu'il y a ici, mais nos yeux sont plutôt rivés vers notre pays parce qu'on a construit là-bas, parce qu'on investit là-bas. En général, c'est ce que font les immigrés, hein. Ils investissent là-bas. Les Suisses font pareil, hein. Même si on peut mettre de l'argent là-bas, mais voilà, tous on fait pareil, quoi. On a cette idée-là. Et laissez-moi, en dehors de ça, vous dire que cette image, c'est juste pour rappeler à tous ceux qui sont chrétiens que nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des immigrés. Notre objectif, comme disaient nos ancêtres, les Israélites, levons les yeux vers les montagnes. Parce qu'en fait, ils avaient l'idée, la montagne, elle est très élevée, donc les yeux là-bas, c'est vers Dieu. Donc, ayons les yeux vers les montagnes. Alors, je vais nous lire un passage. Dans Genèse 26, 1 à 16. Je lis mieux sans mes lunettes. Il y eut une famille dans le pays, outre la première qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toute cette terre. » Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix et il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est donc ta femme ? Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur » Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimélec fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes. « Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. » Dans cette histoire, c'est Isaac, fils d'Abraham, qui doit prendre une décision assez importante en tant que chef de famille, en tant que leader, parce qu'il y a une situation économique très grave, il y a la famine. Et plus qu'il y a la famine, qu'est-ce qu'il faut faire? Logiquement, comme tout être humain, on se dirige vers un endroit prospère, un endroit fertile. On va aller en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le pays de la prospérité. C'est le pays où tout est beau, où tout est prospère, où tout est florissant. Et aussi, où on vit indépendamment du Dieu Tout-Puissant. On vit selon d'autres dieux. Et là, Dieu apparaît à Isaac et il lui dit, « Tu n'y vas pas. » Quelquefois, nous, dans les décisions que nous avons à prendre, dans le monde dans lequel nous sommes, en tant qu'immigrés, nous devons prendre des décisions importantes. Pourquoi ? Parce que ce que nous présente le monde, c'est très alléchant, c'est très attirant. Vous imaginez un homme, je ne sais pas, il avait sa femme, je ne sais pas combien de bergers il avait avec lui. En tant que leader, il doit prendre une décision, mais il y a la famine. Économiquement parlant, il n'y a rien ici. Il faut nourrir tout ce monde, il faut nourrir tout ce bétail. Bon, par plus les humains qui sont derrière moi, il faut les nourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On y va où c'est prospère. C'est logique, c'est humain. Et là, Dieu apparaît à Isaac et lui dit, tu n'iras pas là-bas. Tu resteras chez les Philistins. Et il est resté à Guérar. Et Dieu lui rappelle également la promesse qu'il a faite à son père. Je vais relire la promesse. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix et a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. À cet instant, Dieu dit à Isaac qu'il lui accordera la protection. Il lui dit également qu'il sera une bénédiction pour d'autres nations. Ses descendants seront une bénédiction pour d'autres nations. Vous, comme dit Jésus-Christ, pour reprendre ses paroles, les fils et les filles d'Abraham sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ces paroles, les paroles de Dieu. Donc ici, il y a des fils, des descendants d'Abraham, ceux qui écoutent et mettent en pratique. Et puisque vous êtes des fils et des filles d'Abraham, cette promesse également est sur vous. La promesse qu'il a donnée à Abraham, la promesse qu'il a donnée à Isaac, et la promesse qu'il nous donne de protection. Et aussi, d'autres personnes seront bénies au travers de nous. La bénédiction, c'est parce qu'ils recevront aussi la chose la plus importante, la bonne nouvelle, l'évangile. La bénédiction parce que, auprès de ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, vous êtes des témoins. Des témoins que Jésus-Christ a choisis, des témoins que Jésus-Christ a appelés. Et cette idée d'être un témoin, à cette époque, lorsqu'un homme était prospère, lorsqu'un homme était très fort en guerre, dans quelle que soit l'activité, en fait, on ne regardait pas l'être, mais on regardait la divinité qui est derrière lui. C'est de cette façon que se faisaient les témoignages. Vous voyez l'exemple, c'est Rahab. Elle décrit comment toute la population de Jéricho est sur la terreur parce qu'elle dit, nous savons que votre Dieu est avec vous et que c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc, il ne voit pas l'homme, mais il voit la divinité qui est derrière. Voilà comment eux, ils étaient des témoins. Et Isaac, là, il est un témoin, il sera un témoin par Dieu qui se manifestera en lui, s'il laisse Dieu se manifester aussi en lui. Et donc Dieu lui demande de rester à Guérar. Il reste à Guérar. C'est quand même difficile de prendre une telle décision. Et là, en restant à Guérar, il met en place une stratégie. Les habitants de cette ville vont voir que ma femme est très belle. De ce fait, il met une stratégie pour protéger sa vie, quitte à ce qu'il perde sa femme. Et apparemment, sa femme est aussi consentante. Et donc, il dit à tout le monde que c'est ma sœur. Il ment, tout simplement. Et il ne s'appuie pas sur la promesse que Dieu lui a donnée tout à l'heure, avant, lorsque Dieu lui est apparu. Il lui a dit que son père a écouté et il a mis en pratique ses commandements. Mais en fait, tout ça, face à la situation, il a quand même aussi peur. En tant qu'immigré, quand on est dans un pays, on n'a pas les habitudes, En fait, on se fait des imaginations, on se fait des idées, on cogite beaucoup sur des choses qui n'existent peut-être même pas, quoi. Et c'est l'exemple d'Isaac. Ce mensonge, ce n'est qu'une reprise de ce que son père a déjà vécu. Même situation, même lieu, même roi, même stratégie. Un mensonge. Il y a ce mensonge. Certains m'ont dit que c'était un mensonge nécessaire. Le mensonge qui soit nécessaire ou mensonge vrai, je ne sais pas comment le dire, reste un mensonge et ce mensonge ne rentrait pas dans le cadre de Dieu. Dieu lui a dit avant que je serai ta protection. Et toi, tu seras un témoin au milieu des autres nations. Il s'est dit que par rapport au plan qu'il a, par rapport au plan de Dieu, ben, il peut aider Dieu par son intelligence. Vous voyez comment il a mis en place son stratagème? C'est quand même difficile de savoir, c'est dur de comprendre et de voir que Dieu nous a donné de l'intelligence et de cette intelligence, on en fait une arme contre Dieu. Depuis le jardin d'Éden, vous seriez comme des dieux. Voilà ce qu'on leur a proposé. Vous seriez comme des dieux. Et ça se reproduit encore plus tard avec Abraham, avec Isaac. Ils mettent en place une stratégie. Dans le monde au milieu chrétien, comme je le disais tout à l'heure, on met souvent en place des stratégies pour pouvoir aider Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu, on connaît, oui, ses promesses, qu'il va nous aider, mais on met aussi, on en rajoute ce que nous, on peut faire. Dieu a dit aux Israélites, quand vous sortirez d'Égypte, vous demanderez aux Égyptiens de vous donner des présents. Et ils sont sortis avec de l'or, etc., des présents. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces présents? Lorsqu'ils se sont retrouvés dans une situation compliquée, critique, un veau d'or. Et ça, c'est notre Dieu. On utilise notre intelligence, non pas pour retourner vers Dieu lorsque les choses pour nous sont dures, sont compliquées, mais on prend notre intelligence, on peut aussi être des dieux. Et ils ont fait un veau d'or. Le veau d'or n'est que la résultante de notre intelligence, non pas au service de Dieu, mais de notre intelligence pour pouvoir sortir des difficultés tout seul. Une autre idée encore, c'est, et là c'est avec les Philistins. En fait, là, la ville de Guérar, située dans l'état des Philistins, ça symbolise tout ce qui est ruse, tout ce qui est stratégie intellectuelle sans Dieu. On ne va pas en Égypte, ok Dieu, je ne vais pas en Égypte, je ne retourne pas dans le monde, je ne fais pas les choses du monde. Cependant, avec tes promesses, je vais essayer d'accomplir tes plans. On reste chez les Philistins et on met des stratégies intellectuelles. Regardez encore, les Philistins, dans toute l'histoire des Israélites, ils sont vraiment restés là et très influents et subtilement, de manière rusée. Vous voyez un peu Samson, ils ont utilisé Dalila pour pouvoir... manigancer leur pan, leur ruse. Quoi. On a l'exemple aussi, oui, je vous ai donné l'exemple du veau d'or. Les Philistins transmettent aussi la terreur. Isaac, il avait peur. À l'époque de Saül, les Philistins sont venus. Vous voyez, ils reviennent toujours. C'est notre côté intellectuel qu'on ne veut pas soumettre à Dieu, mais qu'on veut faire selon nous-mêmes. Il y a un géant qui fait près de 3 mètres, qui menace toute une armée. Vous imaginez un Allemand, je prends un Allemand parce qu'ils sont assez grands, même, Allemands, Suédois, ou voilà. Ils sont assez grands. Un seul Allemand qui vient menacer toute l'armée française. Goliath, c'était ça. Et il les insultait. Chaque jour, c'était comme ça. Face à un tel ennemi, un Philistin, les Philistins, ils s'aimaient la terreur. Tous, ils avaient peur. Et c'est un petit berger de rien du tout. Quand Dieu a envoyé le prophète, même le prophète pensait que c'était le fils aîné qui était appelé par Dieu. Mais Dieu a dit au prophète, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Moi, je regarde au cœur. C'est ce tout petit berger de rien du tout qui est venu. Et devant Saül, il a dit, je ne peux pas porter ton armure parce que je ne suis pas habitué avec. Je vais faire avec ce que j'ai l'habitude de faire. Et il est allé devant Goliath. Il a dit à Goliath que toi, tu viens devant moi contre le javelot. Et ouais, ses armes, le javelot et son quoi son a, sa, oui, le javelot, c'est la lance. Le javelot, il a donné un autre nom. Ben, voilà, tu viens avec moi contre tout ça, mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Et pourtant, devant lui, c'était vraiment un géant. Et lui, devant un petit rikiki de rien du tout. Ce n'est ni les pierres qu'il est allé choisir dans le cours d'eau qui ont tué Goliath, mais il a averti Goliath que c'est au nom de l'Éternel que je viens devant toi. Il n'a pas mis sa stratégie. Bon, enfin, sa stratégie de berger, c'était toujours de faire confiance à Dieu. Et en tant qu'immigré, nous, les situations par lesquelles nous passons, comme Isaac, quand il lui a donné la promesse, c'était de faire confiance en ce que moi je t'ai dit. Même si tu vois que les Philistins, ils sont là autour de toi, qu'ils te font peur, si tu as peur, ben confie-toi à moi. Un autre exemple de quelqu'un qui a mis son intelligence au service de Dieu, c'est Simon-Pierre dans Luc 5. Simon-Pierre, il a pêché toute la nuit. Vraiment, il a pêché toute la nuit. Il arrive le matin, ils sont en train de laver le filet. Il rencontre Jésus. Dans Jean, il y a plus de précision parce que Jean dit « Jésus supplia Pierre de lui prêter la barque. » Ça se voit que Simon-Pierre, il ne voulait rien entendre. Quoi. Voilà, il a pêché toute la nuit, donc il arrive, il est complètement abattu, vraiment abattu. Et Jésus lui demande de lui prêter la barque parce qu'il doit enseigner la foule. Donc il s'éloigne du rivage un peu, il enseigne la foule. Quand il a fini d'enseigner la foule, Jésus-Christ lui dit, jette ton filet dans les eaux plus loin, plus profondes. Attends, toi tu es charpentier, moi je suis pêcheur d'expérience, de savoir-faire. J'ai mis toutes mes stratégies, je n'ai pas pêché pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, pendant toute la nuit, j'arrive épuisé. Et toi, tu me donnes une stratégie farfelue, quoi. Et la pêche, elle est meilleure la nuit que le jour. Il n'a pas dit tout ça. Il lui a tout simplement dit, maître, ouais, maître, c'est que toi, tu sais mieux que moi. J'ai pêché toute la nuit, mais sur la base de ta parole, je jette le filet. Avec notre intellect, on met beaucoup de choses en marche pouvoir accomplir toujours les œuvres de Dieu, pour pouvoir... Mais... Et en face de nous, on a honte, quoi, très honte, parce que Abimélec, il a bien repris Isaac. Et très bien. Quelle honte de se faire reprendre par un païen. Quoi. Et je crois qu'Abimélec, il a retenu la leçon. Pourquoi ? Parce que, je vous disais tout à l'heure... des années avant, avec son père. C'était le même roi. Abraham a fait la même chose et Dieu se révèle en rêve à Abimélec. Et il est menacé de mort. Vous voyez la promesse ? Il menace de mort Abimélec et tout son peuple. Il se réveille et il réunit son conseil, ses généraux, et il leur raconte l'histoire. Ils font venir Abraham. Il dit, tu nous as menti. Peut-être qu'il a, assurément, il a retenu cette histoire. Et quand il les a vus, il a vu que Isaac était vraiment marié à Rebecca et qu'ils avaient menti. Ben, il n'a pas cherché à tergiverser. Il l'a fait venir et il lui a dit. Ben, c'est honteux. Honteux de savoir qu'en face, c'est un païen qui croit vraiment que Dieu s'est révélé en lui en rêve. Et que ce Dieu-là, il faut s'en méfier. Il faut avoir du respect pour lui. Et là, sans le savoir, même si Isaac a fauté, Abimelech, deux fois de suite, il sait que le Dieu de ces hommes-là, qui reviennent de loin, est un grand Dieu. Est vraiment un grand Dieu. Mais nous, on a tendance aussi à édulcorer, à un peu ajouter de nous-mêmes dans ce que l'on veut faire pour Dieu. Nous sommes des témoins. En tant que témoins, d'abord en tant que frères et sœurs dans l'Église, c'est Léonard Ravinel, c'est un éminent prédicateur anglais, qui disait, dans la société dans laquelle nous sommes, on utilise de l'euphémisme. Quand tu parles de société, c'est-à-dire dans le monde chrétien, on utilise beaucoup de l'euphémisme. Lorsqu'un frère a commis adultère, on ne dit plus « frère, tu as commis l'adultère ». On dit « il a eu une aventure ». Lorsqu'un frère a péché, on n'utilise plus le mot « péché ». On dit « il a eu une faiblesse ». Si la Bible utilise « péché », c'est « péché ». Nous, on se dit « non, psychologiquement, ça va le choquer, psychologiquement, voilà, c'est le dénigrer, c'est... » Mais dans Jean 15, la parole de Dieu est claire. Ton frère a péché, tu vas vers lui. Il y a la démarche de lui dire clairement sa faute et de le ramener vers Dieu. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais nous, aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est ajouter une part, on veut adoucir ce que la Bible a bien pointé du doigt. Et cette Bible a été écrite par le Créateur du ciel et de la terre. Il sait qu'on en a besoin. Le péché, c'est le péché. Il va plus loin, ce même prédicateur. Il dit, aujourd'hui, lorsqu'on veut évangéliser, on cherche des contacts. Ben dis donc, si on cherche des contacts, je crois que c'est la raison pour laquelle Jonas n'est pas allé à Ninive. De toutes les façons, il n'avait pas de contact à Ninive, et il ne voulait pas y aller. Qu'à cela ne tienne, il est allé, il a annoncé la parole. Ce n'est pas le contact qui amène les cœurs à la conversion, c'est la parole de Dieu. Il rajoute, mais aujourd'hui, nous sommes équipés d'une façon extraordinaire en instruments, en tout ce que vous voulez par rapport aux disciples dans le livre des Actes. Mais ces disciples, sans instruction, ils ont mis le monde autour d'eux en sens dessus-dessous. Ils n'avaient pas tout ce qu'on avait, mais parce que tout simplement, animés de l'Esprit de Dieu. Ils ont transformé le monde dans lequel ils étaient. Nous, on cherche beaucoup. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si peut-être qu'Axel, pour faire le chariot à la gare de Brunois, il a fait un courrier au président de la SNCF, M. Pépi, ou encore il a fait un courrier au maire de Brunois, M. Bruno Gallier, pour lui dire, voilà, il faut qu'on ait des contacts, etc. Non, il est allé par le mandat qui lui a été donné. Et avec son équipe, c'est ce qu'ils font. Par le mandat qui leur a été donné, ils y vont. Mais nous, on veut faire beaucoup, pas mal de choses. Non, il nous faut des contacts, il nous faut ci, il nous faut ça. Et aussi, où est notre rencontre avec Dieu pour connaître ses promesses, pour savoir ce qu'il veut que nous fassions? Notre intelligence, ce que nous faisons, n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. On pourrait dire que les temps ont changé. Ouais, on le dit souvent, que les temps ont changé. L'homme, il n'a pas changé. Hein. Isaac, il ment aussi bien que les chrétiens aujourd'hui. Le diable non plus, il n'a pas changé. Même stratégie. Il veut influencer, il veut faire peur, comme les Philistins. La seule arme redoutable contre les œuvres des ténèbres, c'est le nom de Jésus, comme David nous l'a donné. Rien que cette arme. Il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui encore, dans notre société, nous avons bien été influencés par le philosophe Nietzsche, par Jean-Paul Sartre, Albert Camus, toutes ces personnes qu'on nous enseigne dans nos écoles et qui circulent d'une manière ou d'une autre dans ce que nous faisons, dans ce que nous, comment est organisée la société. Parce que ces penseurs, l'un était humaniste, l'autre, Jean-Paul Sartre disait que l'être humain doit se développer par lui-même et pour lui-même. Et ils étaient clairs, ils étaient contre Dieu. Nietzsche, le philosophe allemand, il disait clairement que c'est la volonté de la puissance. Il faut s'y faire. On va y arriver. Dans l'un de ses livres, il parle de Zarathoustra, l'homme accompli. Nous avons été influencés par toutes ces choses que nous pouvons de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Comme on l'a souligné dimanche dernier, Christophe, sans Dieu, nous ne sommes rien. Absolument rien. Et même dans nos prédications, on a peur de dire la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on se sent indexé. Mais sachez que quand vous partez de chez vous pour venir ici, c'est pour que Dieu vous parle. Hein. Et vous, de ce fait, vous êtes indexé. Hein. Sachez que, retenons que nous sommes immigrés. Et en tant qu'immigrés, en pèlerinage sur cette terre, nous avons notre objectif. L'immigré, il ne s'attarde pas, je dois construire une maison, il ne s'attarde pas, les choses de la terre, on en a besoin, oui, je n'en disconviens pas. Les choses qui vont lui prendre du temps. Isaac, il savait qu'il regardait le pays. Il contournait le pays. Parce que tout ce territoire leur appartenait. Malheureusement, vous allez vous en rendre compte qu'en étudiant Josué, ce petit pays-là, qui faisait partie de Canaan, ils ne l'ont jamais conquis. Quoi. Ils l'ont laissé tel quel. Pourquoi ? Mais les Philistins, ils se sont vengés par la suite. Comme notre intelligence, elle doit être soumise à Dieu. Soumise à Dieu. Dieu nous a donné une intelligence pour aller vers lui quand nous sommes dans des difficultés. Et non pas se dire, bon, comment est-ce que je vais m'en sortir tout seul, sans lui, sans le Créateur. Nous sommes soumis à la théocratie, à la volonté de Dieu. C'est elle qui gouverne nos vies. Et dans cette théocratie, il y a cette liberté de dire à Dieu, non seulement de s'approcher de lui, mais aussi de lui dire ce que nous avons dans notre cœur. Parce que la relation que nous avons de lui à nous, c'est une relation de père à fils. Qu'à cela ne tienne, c'est la théocratie. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et non pas notre savoir-faire, notre intellectuel, nos connaissances. Rien que la parole de Dieu. Pas nos forces, tout ce que nous avons, rien que la parole de Dieu. Et rien que lui qui s'accomplit. En tant qu'immigré, en tant que de passage sur cette terre, nous qui allons vers notre cité céleste. 1 Pierre nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. n'ayez pas honte de dire que vous êtes des chrétiens. Dans le métro, n'ayez pas honte de lire votre Bible ou de la couvrir pour qu'on ne voit pas. Ah, mais tiens, je viens de lire une Bible ou un livre chrétien. N'ayez pas honte parce que vous êtes des témoins. N'ayez pas honte d'avoir des discussions bibliques dans le train, où que vous soyez, au milieu des païens. Comment entendront-ils l'évangile si vous ne parlez pas? Pour terminer, j'aimerais tout simplement vous dire, vous qui êtes dans des situations compliquées, difficiles à prendre, parce que le monde dans lequel on vit nous présente pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses alléchantes. La dernière fois, je vous parlais d'une voiture que j'aimerais bien conduire, une Tesla. Vous savez combien coûte une Tesla? Ah, dis donc, il faut prendre un crédit. Hein. Non, mais ça coûte cher, une Tesla. Et très cher. Attardons-nous aux choses d'en haut. Et vous qui avez des situations difficiles, très dures à prendre, j'aimerais tout simplement vous dire Shalom. Alechem. J'aime bien dire Shalom à Alechem parce que c'est clair et net. C'est la paix de Dieu soit sur toi. Ce n'est pas la paix des hommes. Ce n'est pas la paix de je ne sais pas qui, de quel humanisme, Albert Camus, ou de je ne sais qui d'autre. C'est la paix de Dieu. La paix de Dieu sur toi. C'est un bonjour, pas un bonjour comme les autres, mais un bonjour qui vient de Dieu. Dans cette situation, sois dans la paix. J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui sont dans des situations assez compliquées ou ne savent pas comment agir. Si vous pouvez lever la main, je vais prier pour vous. Oui. Levez-vous tout simplement, n'ayez pas honte. Levez-vous tout simplement et je vais prier. Abba Père, tu vois toutes ces personnes. Si elles se sont levées, ce ne sont pas des personnes que nous avons indexées. Si elles se sont levées, Père, toi, tu es notre Père. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Cette promesse que tu as donnée à Abraham, cette promesse que tu as donnée à Isaac et encore à d'autres, elle est arrivée jusqu'à nous. Tu es le Dieu qui nous protège. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Et Père, sur la base de cette parole, je vais te présenter tes enfants ici. Tu vois toutes les décisions qu'ils ont à prendre. Et tu vois tout ce que le monde nous propose. Père, je t'en prie, manifeste-toi pleinement. Seigneur, tu connais leur cœur qui est de te servir. Et toi, tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Seigneur, nous ne sommes pas retirés du monde pour nous perdre. Nous nous sommes retirés du monde, c'est parce que nous savons que toi, tu es le vrai Dieu. Et Père, nous avons accès en ta présence. Et ce matin, tu savais que toutes ces personnes devaient être là. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je les présente, que je présente cette situation qu'ils vivent. Tout-Puissant, la même manière que tu t'es révélé à Isaac, tu es le Dieu qui se révèle encore. Ce ne sont pas des histoires anciennes, mais c'est la pure réalité qui continue à ce jour et aujourd'hui. Tout-Puissant, le cri de mon cœur, c'est manifeste-toi encore dans la vie de toutes ces personnes. Amen. Mais si vous voulez échanger, si vous voulez partager avec des frères, il y a notre pasteur qui est là, Blaise, il y a Samuel, il y a encore d'autres personnes, voilà. Vous vous retrouvez pour prier. Il y a Christelle qui est là aussi. Nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ, des immigrés qui avons un seul objectif, aller vers le Père. Je vais laisser la place à Samuel.
Nous allons tout simplement rester dans cette attitude de révérence par rapport à l'Éternel et prier, le louer avec nos propres mots, nos propres intonations de chant, qu'on puisse vraiment louer Dieu ensemble.